Les nouvelles climatiques se succèdent. On a appris hier de Météo France que 2018 restera comme l'année la plus chaude jamais enregistrée en France, c'est-à-dire depuis 1900. Et mardi, quatre associations, la Fondation pour la Nature et l'Homme, Greenpeace France, Oxfam France et Notre Affaire à tous, ont annoncé qu'elles vont porter plainte contre l'État français pour inaction face au changement climatique et non-respect de ses obligations internationales. En trois jours, la pétition qui accompagne cette initiative, intitulée « L'affaire du siècle », a recueilli plus d'1 400 000 signatures, ce qui en fait la pétition la plus signée de l'histoire en France, devant celle contre la loi El Khomri. Valérie Masson-Delmotte, bonjour.
Bonjour.
Merci beaucoup d'être là ce matin. Vous êtes climatologue, directrice de recherche au CEA, coprésidente du groupe de travail sur le changement climatique du GIEC. Il faut toujours rappeler que le GIEC, c'est le groupement même intergouvernemental d'experts sur l'évolution du climat et qu'il a remporté le prix Nobel de la paix en 2007. Vous êtes également membre du Haut Conseil pour le climat que vient de créer le président de la République, Emmanuel Macron. Est-ce que vous soutenez cette démarche des ONG ?
Alors moi j'ai signé cette pétition. Je suis particulièrement sensible au fait que la France est en retard par rapport à ses engagements de baisse des rejets de gaz à effet de serre. Et je pense qu'il y a parfois une indifférence, parfois une apathie, mais en tout cas une vraie difficulté à mettre en œuvre cette transition qui est importante.
L'apathie là ne viendrait donc pas des citoyens, puisque 1 million, près de 400 000 signatures obtenues en 3 jours, je disais c'est du jamais vu en France. Est-ce que pour vous c'est le signe qu'enfin il se passe quelque chose ? Est-ce que c'est le sursaut que vous attendiez ?
Il y a une prise de conscience sur le fond. Et cette prise de conscience, c'est aussi parce que les gens ont du bon sens et qu'ils observent autour d'eux et qu'ils voient la réalité des conséquences de ce climat qui se réchauffe, avec par exemple des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses, avec dans le sud de la France une augmentation de l'intensité des pluies records, la montée du niveau des mers ou bien des sécheresses qui touchent une surface plus grande de notre territoire. Je pense très profondément que les gens observent ces changements, s'en rendent compte, se sentent extrêmement préoccupés par rapport à ce nouveau climat, ce territoire inconnu qu'on va laisser aux jeunes générations d'aujourd'hui.
Ce qui est aujourd'hui sur la table est largement insuffisant, dit la pétition. On en est là, Valérie Masson-Delmotte, à devoir poursuivre l'État en justice parce qu'il ne fait pas assez ?
C'est quelque chose qui est observé dans le monde entier. Il y a eu récemment, par exemple, un procès porté par des citoyens vis-à-vis du gouvernement néerlandais. Il y a une action qui est menée devant la Cour européenne de justice. Il y a également une action qui est menée par un collectif d'enfants aux États-Unis par rapport aux droits fondamentaux que devrait défendre la Constitution américaine à préserver les biens communs.
Et puis aussi au Pakistan, et puis aussi en Colombie, effectivement un petit peu partout dans le monde. Mais quand vous entendez le ministre de l'Environnement, François de Rugy, fin novembre, dire « Franchement, vous croyez que c'est dans les tribunaux qu'on va régler le problème du dérèglement climatique », vous réagissez comment ?
Moi, je pense que le droit, c'est un des fondements de la démocratie. On a plusieurs piliers, on a des médias indépendants, on a l'indépendance de la justice, on a la représentation des gens. Ce qui est frappant partout dans le monde, c'est quand on prend... un échantillon représentatif de la population, vous savez, par tirage au sort, qui représente tous les âges, toutes les catégories de revenus, les hommes, les femmes, les différents territoires d'un pays. Le niveau d'ambition par rapport à l'action vis-à-vis de l'environnement et du climat qui s'exprime est bien supérieur à celui qui est porté par les assemblées élues. C'est quelque chose qui est frappant, qui a été observé dans tous les débats participatifs qui ont été organisés.
Les ONG, là, s'appuient sur le rapport spécial du GIEC du 8 octobre dernier qui souligne que les températures moyennes devraient atteindre le seuil critique de 1,5 degré entre 2030 et 2052 si le réchauffement climatique continue au rythme actuel. Alors justement, la France, sur le papier, elle s'est engagée à tout faire pour limiter le réchauffement à 1,5 degré. Dans les faits, elle ne respecte pas ses engagements ?
Dans les faits, les émissions de gaz à effet de serre de la France qui ont commencé à baisser à partir des années 90 ne baissent plus depuis plusieurs années. C'est ça qui est très préoccupant. Donc les engagements qui ont été pris dans plusieurs secteurs ne sont pas tenus. Par exemple, la baisse des émissions dans le secteur du bâtiment, la baisse des émissions dans le secteur agricole, la baisse des émissions dans le secteur des transports. Et donc il y a un vrai besoin de comprendre pourquoi les engagements précédents ne sont pas tenus et faire en sorte de pouvoir poursuivre cette recherche finalement d'une indépendance par rapport aux énergies fossiles avec des bénéfices qui ne sont pas que pour le climat mais qui sont aussi pour notre économie.
Alors vous soutenez, Valérie Masson-Delmotte, cette démarche d'une pétition citoyenne et d'une démarche même en justice menée par quatre ONG françaises. Vous êtes vous-même maintenant membre du Haut Conseil pour le climat, je le disais, qui a été mis en place il y a quelques semaines, quelques mois à peine, par le président de la République. Est-ce que l'ambition qui est la vôtre en participant à ce Haut Conseil, c'est justement de faire bouger les choses un peu plus rapidement ou un peu plus efficacement ?
Alors c'est un Haut Conseil qui est en train d'être mis en place, qui doit être indépendant. Il est d'ailleurs présidé par une climatologue parmi les plus reconnues dans le monde entier, Corinne Le Quéré, qui est une franco-canadienne travaillant au Royaume-Uni, donc qui est vraiment d'une indépendance totale par rapport au gouvernement français. L'idée, c'est vraiment d'analyser les engagements de la France, leur mise en œuvre, de comprendre ce qui n'a pas fonctionné et de faire des recommandations qui fassent autorité.
Donc là aussi, c'est une bonne chose, les choses sont en train de bouger. Samedi dernier, Valérie Masson-Delmotte, après 2 semaines de tractations plutôt délicates en Pologne, l'accord de Katowice a été signé. Il conforte celui de Paris, signé en 2015, visant à limiter le réchauffement climatique sous le seuil des 2 degrés. Est-ce que c'est satisfaisant ?
Les objectifs de la COP24, c'était un ensemble de choses très techniques pour la mise en œuvre de l'accord de Paris qui doit rentrer qui doit devenir opérationnel à horizon 2020. Donc sur ce cahier des charges très technique, je pense qu'il y a eu des avancées significatives, même si ça n'est pas mon champ de compétences à moi. Ce qui a été très frappant au moment de la COP24 pour moi, c'était la manière dont notre rapport spécial sur 1,5 degré a été reçu. Nous l'avons préparé à la demande des gouvernements, c'était une demande de la COP21. C'est pas nous qui avons inventé de travailler sur 1,5 degré. Le GIEC ne fait pas de recherche, il fait simplement l'état des lieux sur la base des publications scientifiques. On a eu beaucoup de publications nouvelles, on a passé en revue plus de 6000 publications, les 3/4 nouvelles depuis 2014. Et on a un rapport qui est très solide, d'ailleurs il a été approuvé par l'ensemble des gouvernements au bout d'une session d'à peu près 100 heures, où on examine mot par mot et phrase par phrase le résumé pour décideurs. Et ce rapport, il montre que chaque demi-degré compte. Un monde aujourd'hui 1 degré plus chaud que le 19e siècle, c'est un monde dont on voit déjà les conséquences du réchauffement. Un monde 1,5 degré, celui vers lequel on va très vite, c'est un monde différent avec le risque de dépasser certaines capacités d'adaptation déjà dans les régions les plus fragiles du monde ou pour certains écosystèmes. Et c'est aussi très différent d'un monde 2 degrés plus chaud. On montre aussi à quel point chaque année compte par rapport à l'action pour réduire les rejets de gaz à effet de serre. On a encore une petite fenêtre d'opportunité maintenant, si on agit collectivement et très vite, pour limiter le réchauffement à 1,5 degré, mais chaque année d'inaction ferme petit à petit cette fenêtre-là, puisqu'il y a un effet cumulatif des émissions passées, présentes et futures de dioxyde de carbone. Et puis notre rapport, il montre aussi à quel point chaque choix compte, et je pense que c'est là où il est le plus puissant. Il montre qu'il est possible, en fait, d'améliorer le bien-être de tous, tout en construisant un mode de développement qui soit résilient par rapport au changement climatique et qui aille vers le zéro émission de dioxyde de carbone. Et c'est un constat qui dérange. C'est un constat qui dérange parce que 4 gouvernements ont eu beaucoup de mal à simplement recevoir notre rapport au moment de la COP24. Il s'agissait de l'Arabie Saoudite, du Koweït, de la Russie et des États-Unis d'Amérique. Ce qui est assez préoccupant sur finalement la place que l'on peut accorder aux faits scientifiques. Et ce qui est aussi préoccupant pour des économies qui n'ont pas réussi dans certains cas à se diversifier et qui restent très dépendantes de l'exportation d'énergie fossile.
4 pays auxquels on pourrait aujourd'hui ajouter le Brésil, avec l'élection de Jair Bolsonaro, qui a déjà annoncé qu'il se retirerait de l'accord de Paris.
Pour l'instant, ça n'est pas fait.
Ça n'est pas fait, mais il a annoncé qu'il le ferait.
Mes collègues brésiliens sont extrêmement préoccupés du rapport à la science, du rapport à la connaissance et du rapport à l'enseignement qui semble exprimé par le nouveau président brésilien. Ils sont également extrêmement préoccupés par rapport à une volonté affichée de ne pas préserver la forêt amazonienne.
On est préoccupé, mais on est aussi plein d'espoir, Valérie Masson-Delmotte, quand on se tourne vers certaines jeunes générations. En pleine COP24, une jeune Suédoise de 15 ans, Greta Thunberg, dont la vidéo a fait le tour du monde, a appelé à une grève de l'école pour pousser les politiques à s'engager davantage pour le climat. Et quand j'en parle, moi je souris, mais je vous vois surtout sourire. Est-ce que ça, c'est quelque chose qui vous redonne de l'espoir et des ailes ?
En fait, c'est la seule personne qui m'a impressionnée au moment de la COP24. Je pense qu'elle m'a impressionnée parce qu'elle parle juste. Elle dit les choses telles qu'elles sont, et en particulier, c'est la voix des jeunes générations qu'on n'entend pas toujours dans le débat public, mais qui a bien perçu le fait que notre inaction aujourd'hui, c'est quelque chose qui les condamne à un fardeau très lourd pour la suite. Le fardeau de s'adapter à un climat qui va continuer à changer. Le fardeau d'agir de manière plus forte si nous n'agissons pas avec les choses qui sont disponibles aujourd'hui, voire de faire appel à des choses très risquées à l'avenir.
Vous parlez d'inaction, Valérie Masson-Delmotte. Eh bien, pour lutter contre cette inaction, vous aussi, vous vous êtes engagé en interpellant d'une certaine façon le gouvernement. Dans un appel publié sur Mediapart le 15 décembre, vous dénoncez, avec d'autres hein, bien sûr, vous dénoncez le manque d'éducation scientifique au climat dans les nouveaux programmes du lycée. Et vous interpellez le ministre de l'Éducation, Jean-Michel Blanquer. Pourquoi ? Qu'est-ce qui se passe avec les nouveaux programmes du lycée par rapport au climat ?
Mais d'abord, la première chose les sciences que nous produisons, les connaissances nouvelles, si elles restent dans nos laboratoires ou dans nos tours d'ivoire, il n'y a aucun intérêt. Le but, c'est que les faits scientifiques soient largement partagés, qu'ils rentrent dans la culture générale. Et la meilleure manière pour le faire, c'est l'éducation. Moi, je pensais naïvement que les connaissances en sciences du climat, comme ça avait été le cas dans les décennies précédentes, allaient graduellement être intégrées dans les nouveaux programmes d'éducation. Et j'ai posé la question tout naïvement sur les réseaux sociaux des nouveaux programmes de lycée. J'ai eu un nombre incroyable de réponses d'enseignants extrêmement inquiets. Et donc ce que j'ai découvert, c'est que d'abord au collège, le climat est enseigné comme moi je l'ai appris il y a 35 ans dans les nouveaux programmes, c'est-à-dire les zones climatiques de la Terre, les grands courants marins et océaniques, comme si le climat ne changeait pas, de la 6e à la 3e. Et ensuite, en seconde et en première, il y a quasiment rien. Donc il y a des choses très bien sur la biodiversité en seconde. Et en première, il y a le bilan d'énergie de la Terre, le rôle du soleil, l'albédo, c'est-à-dire le pouvoir de réflexion des surfaces par rapport au rayonnement solaire. Et puis c'est indiqué, on pourrait parler de l'effet de serre en option. Voilà. Et donc c'est quelque chose qui me préoccupe fortement parce que je pense que il est urgent de donner aux jeunes générations des clés pour comprendre ce changement, de le faire dans le cadre de programmes scolaires avec des faits qui sont vérifiés, qui sont rigoureux, et non pas de les laisser s'informer par les réseaux sociaux et par toutes les formes d'information qu'on va mettre à leur disposition, mais qui n'ont pas nécessairement ce label de qualité. Et puis c'est pas uniquement de leur permettre de comprendre à quel point nous perturbons le changement climatique, c'est aussi leur donner des clés pour agir pour s'adapter à un climat qui va continuer à changer, donc s'approprier ces connaissances de sorte à être acteur de la résilience, et aussi comprendre en quoi nos activités contribuent au rejet de gaz à effet de serre, l'historique, le poids des uns et des autres dans le monde, donc des outils de positionnement géopolitique et aussi des clés pour être porteurs de solutions, pour agir de sorte à réduire les rejets de gaz à effet de serre.
Certains lycéennes et lycéens, des jeunes, des étudiantes et des étudiants vous ont entendu, en tout cas ils ont embrayé par une lettre ouverte hier. Nous étudiants voulons que le climat soit vraiment enseigné à l'école. Alors il se trouve que les programmes ont été présentés mardi au Conseil supérieur de l'éducation, ils doivent être validés début janvier. Est-ce que vous avez été entendu? Est-ce que vous avez eu des nouvelles? Vous, hein, Valérie Masson-Delmotte, mais aussi Gilles Boeuf, Laurence Tubiana, Isabelle Autissier, Pascal Canfin, Jean Jouzel, Hervé Le Trotte et de très nombreuses personnalités scientifiques qui ont signé votre appel, votre tribune dans Mediapart. Est-ce que le ministre vous a répondu d'une façon ou d'une autre ?
Donc moi j'ai écrit au Conseil supérieur des programmes par email, je n'ai pas eu de réponse. J'ai écrit au ministre par le système de boîte mail du ministère de l'Éducation, je n'ai pas eu de réponse. Ce qui me sidère le plus, c'est peut-être que dans la mise en place de ces nouveaux programmes collège et lycée, personne à l'éducation nationale et personne au Conseil supérieur des programmes ne s'est posé la question de qu'est-ce qui était nécessaire d'enseigner pour en former des citoyens avertis au 21e siècle par rapport aux enjeux climat et biodiversité, de sorte que ce soit construit de manière régulière sur le temps scolaire et non pas éventuellement accumulé sous forme d'un paquet dans un enseignement en fin de lycée par exemple.
Et ben, fasse qu'ils vous entendent ce matin, Valérie Masson-Delmotte. On vous retrouve d'ici quelques minutes, il est 8h30 sur France Culture.
France Culture, les matins du samedi, Caroline Roumet.
Nous allons vous emmener de l'autre côté du globe, dans l'Antarctique, en Antarctique, en compagnie de Nicolas Martin, de la méthode scientifique bien entendu. Nicolas Martin, embarqué depuis 3 semaines à bord de l'Astrolabe, ce navire polaire français qui assure la logistique de la Terre Adélie en Antarctique et les missions scientifiques de cette région polaire depuis l'Australie jusqu'à la base qui a pour nom Dumont-Durville. On est en Antarctique. Alors là, vous êtes revenu sur la terre ferme, Nicolas Martin, ce qui nous permet de vous joindre. On est très heureux de vous avoir au téléphone. Bonjour Nicolas.
Bonjour Caroline, moi aussi je suis très heureux de vous parler et de retrouver après quelques semaines d'isolement complet au fin fond du sud du monde, de retrouver un peu la civilisation et de retrouver ma radio de cœur.
Bon, de toute façon vous allez nous revenir bientôt j'espère. Vous avez réussi à traverser alors pour aller sur la banquise, la mer elle n'est pas toute de glace ?
Ah non, pas du tout, pas du tout. Il y a l'océan austral, vous savez, c'est un océan circumpolaire hein, qui fait le tour de l'Antarctique. Il y a les 40e hurlant, les 50e rugissant, les 60e bondissant, la mer est très mauvaise, c'est une traversée assez sportive, je ne vous le cache pas. Et puis à un moment donné, une fois qu'on a passé aux alentours du cercle polaire, c'est-à-dire aux alentours de 66 degrés de latitude sud, eh bien on commence à rentrer dans le pack et dans la banquise. Et cette année, il s'avère que il y a eu une débâcle très 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 tôt, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas de banquise du tout, et on a pu accoster avec l'Astrolabe directement à la base du Mont d'Urzil, alors que d'habitude, il reste souvent bloqué dans la banquise jusqu'à 60, 100, parfois 100 km du Mont d'Urzil sans pouvoir avancer. Mais cette année, bien, il y a eu une grande débâcle et donc on a pu accoster.
Quelle température faisait-il ?
On était en température absolue, on était sur du moins en journée autour de zéro, la nuit autour de moins 10, mais même en journée, dès qu'il y a un peu de vent, il y a un vent qu'on appelle catabatique, c'est-à-dire qui vient et qui descend le long d'un glacier, qui vient du continent, qui est un vent très froid, donc on tombe à des températures ressenties de moins 15, moins 20 parfois.
Alors la base du Mont d'Urzil, Nicolas Martin, c'est cette base scientifique qui accueille jusqu'à 100 personnes en été austral, plutôt 20 à 30 personnes en période d'hivernage. Elle est sur l'île des Pétrels. Qu'est-ce que vous avez vu là-bas ? Est-ce que c'est une zone relativement préservée ?
Je ne saurais pas comment utiliser des mots adéquats pour décrire la magie de l'Antarctique et du paysage. C'était très très enneigé. Il y a beaucoup de vie. La base du Mont d'Urzil, elle est construite, elle a été établie au milieu d'une manchotière, et donc là, c'est la période de reproduction des manchots adélites, qui sont des petits manchots, alors que les manchots empereurs, les grands, les majestueux manchots empereurs, vous savez, avec ces plumes jaunes dans le cou, qui ont donné lieu à un film magnifique, qui a été filmé d'ailleurs à du Mont d'Urzil, eux se reproduisent pendant l'hiver, donc il y a beaucoup de vie, il y a des phoques qui se reproduisent aussi là. On est encore sur une faune assez riche. Il y a des pétrels, des petits oiseaux, des océanites. Il y a beaucoup d'ailleurs de travail d'ornithologie qui se fait à Mont d'Urzil. C'est une grande part de biologie marine et d'ornithologie. Avec d'ailleurs, j'ai pu interviewer un ornithologue qui s'appelle Olivier Chastel, qui travaille sur la diffusion des polluants chez les oiseaux de mer, qui sont des réceptacles aux polluants, et notamment à certains polluants qui sont encore très très sous-estimés, qui sont les perfluorés, et qui perturbent largement le cycle de reproduction de certains oiseaux, notamment des pétrels des neiges et des océanites de Wilson.
Alors évidemment, Valérie Masson-Delmotte, qui est notre invitée ce matin et qui est glaciologue, paléoclimatologue, vous écoute. Elle est toute oui. Revenez-nous vite, Nicolas Martin, maintenant. Vous êtes de retour en Tasmanie, sur la terre ferme déjà. À très bientôt. Bonne fête de fin d'année et bon voyage. Merci beaucoup. Rapportez-nous aussi de très beaux reportages. Merci, Nicolas Martin. À très bientôt. À très vite. Merci. Valérie Masson-Delmotte, oui, vous êtes glaciologue, donc vous êtes arrivée de faire des voyages en Antarctique.
Alors en Antarctique, non, mais j'ai deux collègues qui sont sur place, Christophe Leroy du Mont d'Urzil à Maël-Landais à la station Concordia, justement pour travailler à mieux comprendre les signaux qui sont enregistrés dans les carottes de glace et mieux reconstruire les variations passées du climat à l'aide de ces archives formidables.
Ce qui est absolument étonnant, c'est qu'en fait, effectivement, quand on est climatologue et qui plus est paléoclimatologue, on travaille dans les températures glaciales des régions polaires pour appréhender le réchauffement en cours et on examine le passé pour avoir une idée du futur. C'est à peu près ça votre métier ?
Pas exactement. C'est, on peut voir les climats passés comme autant d'expériences sur le climat de la Terre. Donc du fait de facteurs naturels, le climat y a réagi et on essaie de tirer parti de ces expériences naturelles pour comprendre comment le système climatique fonctionne, comment il amplifie des perturbations initiales, quelles sont les séquences d'événements qui vont se mettre en route et qui impliquent donc le climat mais aussi les calottes de glace, le cycle du carbone, etc. Donc, c'est une mine d'informations formidable. D'abord pour situer les perturbations actuelles dans un temps long.
Oui, parce qu'on dit, par exemple, en 25 ans, l'Antarctique a perdu près de 3000 milliards de tonnes de glace.
Donc, le niveau des mers monte aujourd'hui parce que les océans se réchauffent et se dilatent, parce que les glaciers de montagne fondent, parce que le Groenland perd de plus en plus de masse, et depuis quelques années, parce que l'Antarctique perd aussi de la masse. Et l'évolution de la quantité de glace stockée en Antarctique, c'est le principal point d'interrogation sur l'évolution future du niveau des mers. C'est ce qui reste attaché à une incertitude la plus grande. Donc, on essaye, nous, de tirer parti des épisodes de climat chaud passés pour des raisons naturelles, pour arriver à mieux comprendre dans quelles conditions les glaciers de l'Antarctique s'écoulent plus rapidement et arriver à s'en servir pour tester nos modèles et donc réduire les incertitudes sur les projections futures. Et on parlait là de la beauté des écosystèmes sur la côte antarctique. En fonction de l'évolution future du climat, si on agit rapidement pour baisser les rejets de gaz à effet de serre, on peut les préserver. Par contre, si on continue année après année à rejeter plus de gaz à effet de serre, ils font partie des écosystèmes qui sont menacés dans le milieu de ce siècle.
Vous disiez que vous n'étiez pas en Antarctique, de fait, mais vous avez bien fait des forages dans la calotte glaciaire à un moment, non?
Alors moi, j'ai utilisé beaucoup d'informations issues des glaces de l'Antarctique. J'ai participé à deux campagnes de carottage au Groenland, donc de l'autre côté, en fait, dans notre hémisphère. Oui, ce sont des opérations de terrain qui nous permettent aussi de vivre dans ces régions polaires qui sont à la fois des amplificateurs. Ce sont les endroits du monde où les changements climatiques sont plus intenses. Ils l'ont été dans le passé, ils le sont aujourd'hui en Arctique. Et ce sont aussi, ça illustre à quel point les choses sont interconnectées. C'est-à-dire ce que nous faisons ici affecte le climat des régions polaires et vice-versa. Ce qui se passe dans les régions polaires et en particulier l'évolution des calottes de glace, c'est ce qui va conditionner la montée du niveau des mers et notre capacité à habiter sur les littoraux de l'ensemble de cette planète.
Là, vous êtes en train de préparer le 6e rapport du GIEC pour 2021. Ce sont des travaux qui vous aident à élaborer ce rapport ?
Donc là, on prépare deux autres rapports spéciaux. Pour le mois d'août, un rapport sur le changement climatique et l'usage des terres, qui touche aux sujets liés à la dégradation des terres, à la désertification, au système alimentaire, à la gestion durable des terres. Donc à la fois pour l'adaptation dans un climat qui change, mais aussi pour transformer notre gestion des terres de sorte à stocker du carbone sur les continents le plus possible. Donc à l'intersection, en fait, climat, biodiversité, désertification. Pour le mois de septembre, on prépare un rapport spécial sur les océans et la cryosphère, la neige, la glace et les sols gelés dans un climat qui change. Et donc là, effectivement, la question du devenir des calottes de glace, c'est un point particulièrement important. Et puis, notre gros rapport sur les bases physiques du changement climatique pour 2021, qui touche plus à des enjeux de compréhension fondamentale, qui est moins directement en prise avec la décision, mais qui est essentiel pour savoir la confiance qu'on accorde aux projections d'évolution future du climat.
Vous avez peur, Valérie Masson-Delmotte, de ce que vous allez trouver ?
Le mot peur ne convient
oui,
pas.
Oui, j'ai bien compris.
Le mot peur ne convient pas parce que je pense que ce dont on a besoin, c'est dépasser les émotions. Et quand on parle de changement climatique, il y a beaucoup d'émotions qui sont à l'œuvre. Il y a une anxiété qui est présente. Il y a parfois aussi le sentiment d'impuissance. Il y a parfois une colère vis-à-vis de l'inaction. Et puis, il y a aussi un deuil d'un monde, finalement, où les activités humaines ne perturbent pas les grandes trajectoires planétaires. Il faut dépasser toutes ces émotions pour devenir lucide et responsable. Et c'est pourquoi je pense que le partage des connaissances, il est essentiel.
Oui, et la démocratisation des savoirs, et en particulier à l'usage et à l'intention des jeunes générations. Valérie Masson-Delmotte, je disais que cette semaine encore avait vu se succéder un certain nombre d'informations et d'actualités liées de près ou de loin au climat. Il en est une de taille, c'est que vous avez été désignée par la prestigieuse revue anglaise Nature comme l'une des 10 figures scientifiques de l'année. Ça représente quelque chose pour vous ?
C'est un grand honneur et c'est un honneur que je partage avec toutes les personnes qui ont préparé le rapport spécial sur 1,5 degré. Donc les 91 auteurs, les 133 contributeurs, les auteurs des 6000 publications, mon unité d'appui qui est basée à Paris-Saclay, qui a aidé à la préparation logistique des rapports, et puis les membres du bureau du GIEC qui ont tous contribué à cette préparation.
Jean Jouzel, le célèbre climatologue, vous prédit un bel avenir et il pense que vous serez la première présidente du GIEC.
Alors ça, c'est pas du tout quelque chose auquel j'aspire. Moi, j'aime bien ce travail de coprésidente parce qu'on est vraiment sur la préparation scientifique des rapports, le fait de veiller à la rigueur, à l'objectivité, à l'exhaustivité de l'évaluation. Le travail de présidente, c'est un travail de représentation, c'est différent.